Chapitre 3. L'attaque. Dans le cadre du débat contradictoire, les stratégies d'attaque vont nous permettre soit de déployer nos arguments en les mettant en valeur, soit de menacer la crédibilité de notre interlocuteur. Nous allons ainsi marquer des points et, prenant progressivement l'ascendant, remporter l'affrontement. 1. Avancer un argument à la fois. Lorsque nous débattons, nous pouvons être tentés d'enchaîner plusieurs arguments au sein d'un même tour de parole. Nous espérons prendre ainsi le dessus par simple effet d'accumulation. Portée à son paroxysme, cette technique porte un nom, l'argumentation ad nauseam. Ployant sous les preuves et les exemples, noyé sous l'abondance, l'interlocuteur finirait, de guerre lasse, par se murer dans le silence. La plupart du temps, cependant, l'effet produit sera très différent. Notre contradicteur se contentera de sélectionner l'élément le plus faible parmi ceux que nous avons alignés, y répondra par de longues et cruelles objections, donnant finalement l'impression d'avoir sapé la totalité de notre intervention. N'oublions pas que les auditeurs sont captifs de l'instant. À l'issue de cette réplique, ils auront déjà largement oublié notre profusion d'arguments. Plutôt que de piéger l'adversaire dans un faisceau de preuves coordonnées, nous lui aurons, au contraire, offert le choix du terrain sur lequel répliquer. Étude de cas. Devant la machine à café, je me suis laissé entraîner dans une virulente discussion politique sur l'adoption au sein des couples homosexuels. J'y suis farouchement favorable et viens de faire valoir un argument très fort. De nombreuses études montrent que les enfants élevés dans les familles homoparentales ne sont pas plus déséquilibrés que les autres. Lancé dans mon élan et voyant que mon principal contradicteur ne fait pas mine de reprendre la parole, j'enchaîne. Et d'ailleurs, je remarque que, lorsque le divorce a été légalisé, la question de l'impact sur les enfants ne s'est même pas posée. On a pensé à l'intérêt des parents et rien d'autre. Il n'y a que pour les couples homosexuels qu'on invoque l'impact potentiel sur l'éducation. Soudain, l'œil de mon adversaire pétille. D'un air prime-sautier, il réplique. « Je rêve ou tu es en train de t'offusquer qu'on pense à l'intérêt des enfants ?»« Eh bien, merci. Au moins, on voit désormais quelle idée tu te fais de la famille. Pour toi, la seule chose qui vaille, ce sont les envies, que dis-je, les caprices des parents. Et tant pis pour les garçons et les filles qui devront grandir sans un père ou sans une mère. » Autour de nous, je perçois de discrets hochements de tête. Décryptage. Ici, notre premier argument n'a jamais été attaqué. Notre adversaire s'est contenté de le laisser couler dans les limbes de l'oubli pour se concentrer sur la seconde partie de notre intervention, beaucoup plus faible. Sur le plan de la pure logique, notre argumentation n'est en rien réfutée. Tout juste a-t-elle été amputée d'un élément annexe et accessoire. Du point de vue des auditeurs, toutefois, nous donnons à cet instant l'impression de tenir une position faible. Cela ne signifie pas que nous ayons nécessairement perdu. Tant que notre preuve initiale tient, nous pouvons toujours la réaffirmer et nous y barricader. En revanche, nous avons encaissé un vilain coup et sommes mis en difficulté. Nous aurions pu aisément l'éviter. Il y a une leçon importante à retirer de cet exemple. Lors d'un débat contradictoire, comme d'ailleurs à l'occasion d'un entretien ou d'une interview, il faut savoir se taire à temps. Nous retrancher dans le silence après avoir énoncé notre argument. N'oublions pas que tout ce que nous disons pourra être retenu contre nous. Plus nous déblatérons et plus nous courons le risque de faire des erreurs, tout en ouvrant des fenêtres de tir à notre interlocuteur. À l'inverse, une pensée courte et ramassée l'enferme dans un espace étroit, où il sera moins à l'aise pour ferrailler. notre chaîne argumentative n'est jamais plus solide que le plus fragile de ses maillons. Avant chaque intervention, nous devrions donc nous demander quel est, en cet instant, notre trait le plus efficace et mettre notre adversaire en position de devoir y faire face. 2. Enrôler les valeurs. Dans un débat contradictoire, l'objet du désaccord est souvent très terre-à-terre. Il nous faut trancher une question concrète dans laquelle s'affrontent deux solutions tangibles. Accepter ou refuser une réforme de la fiscalité, accentuer la communication autour d'un produit ou investir dans le prochain projet, conserver une direction des services informatiques ou l'externaliser auprès d'un prestataire. Notre réflexe naturel, en ces conditions, est généralement de rester ancré dans la réalité et ses contraintes inertes. Nous défendons les mérites de notre proposition et soulignons les limites de celles portées par notre adversaire. Cela peut suffire, il est vrai, pour l'emporter. Nous gagnerions en efficacité toutefois si nous parvenions à prendre de la hauteur, à amplifier les enjeux de la discorde jusqu'à conférer à notre position des implications universelles. Il suffit pour ce faire d'enrôler à notre côté une valeur cardinale dans laquelle nos auditeurs se reconnaîtront. Nous ne défendons plus alors une simple réforme de la fiscalité, nous nous battons pour l'égalité entre les citoyens. Nous ne plaidons pas seulement pour initier le développement d'un nouveau produit, nous en appelons à renouer avec l'ambition. Nous ne bataillons pas pour garder une direction informatique, nous luttons pour conserver notre indépendance. Si notre adversaire nous laisse faire sans réagir, nous venons de faire un grand pas vers la victoire. Tandis qu'il en est réduit à défendre sa petite solution étriquée, nous combattons, nous, pour faire triompher un idéal. À l'inverse, si c'est notre interlocuteur qui, le premier, parvient à revendiquer l'universalité, nous ne devons en aucun cas lui en laisser la seule jouissance. Nous lui opposerons alors une autre valeur d'une même importance. Il insiste sur l'importance d'installer des caméras de vidéosurveillance afin de garantir la sécurité et la tranquillité des individus. Nous lui rappellerons qu'il n'y a rien de plus précieux que la liberté et qu'elle implique le droit de ne pas être vu. Mieux, si nous y parvenons, nous pouvons même opposer à notre contradicteur la valeur dont il entendait se faire le champion. Il prétend que sortir de l'Union européenne est une question essentielle de souveraineté. Nous lui répondons qu'à une époque où la Chine et les États-Unis sont devenus des puissances écrasantes, la première des souverainetés, c'est de pouvoir négocier avec eux d'égal à égal, et que pour cela, nous avons besoin d'une organisation supranationale. Cela va de soi, nous ne pourrons pas éternellement en rester à un tel niveau d'abstraction. Si nous ne voulons pas donner l'impression de brasser des concepts inconséquents, il faudra vite en revenir à des développements plus substantiels. Cette incartade par l'universel continuera toutefois d'irriguer notre position pour le reste de l'affrontement. Il s'agit d'un atout déterminant. 3. Utiliser les armes de l'adversaire. Nous l'avons vu, au cours d'un débat contradictoire, nous sommes plongés dans le brouillard. Autour de nous, tout se trouble et se floute, tandis que notre attention se voit accaparée par une seule interrogation. Qu'allons-nous bien pouvoir dire ensuite? Quelle sera notre prochaine réplique? Comment devrions-nous orienter notre argumentation? Ce faisant, nous en oublions d'écouter notre interlocuteur. Quand il cesse de parler, il n'est pas rare que nous ne sachions pas exactement ce qu'il a dit. Cette situation est bien évidemment dommageable. D'une part, nous risquons de commettre un hors-sujet, répondre totalement à côté et paraître ainsi déconnecté de la discussion. D'autre part, nous pourrions laisser passer une attaque dangereuse qui aurait mérité d'être prestement neutralisée. Enfin et surtout, nous allons nous priver de magnifiques opportunités. Nos plus belles ressources, en effet, nous sont souvent servies par l'adversaire. Commençons par prêter attention aux mots de notre interlocuteur, car ce sont précisément les siens. Il les a employés librement et ne pourra en aucun cas contester que nous nous en saisissions à notre tour. Nous avons vu précédemment combien le moindre terme mal connoté pouvait dévaluer l'intégralité d'un discours. Cela est encore bien pire dans le cadre d'une confrontation. Imaginons par exemple que, pour défendre l'action du gouvernement en temps de crise, notre interlocuteur soutienne qu'aucune communication politique ne saurait être totalement transparente. Au cours de l'échange, il finit par s'exclamer « Mais enfin, sortez de votre conte de fées! Bien sûr qu'on est obligé de mentir aux Français! On ne pourra jamais se passer d'une certaine opacité !» Pour peu que le mot ne nous ait pas échappé, nous pouvons le retourner contre son auteur et l'en transpercer. Merci, cher ami, pour cet aveu qui a au moins le mérite de l'honnêteté. Nous savons désormais quelle est votre véritable idéologie politique, le mensonge érigé en mode de gouvernement. Guettons ainsi, dans le lexique de notre adversaire, l'émergence de termes dont les connotations pourraient lui porter préjudice. Et utilisons-les à notre tour, sans le moindre scrupule. Une fois prononcés, ils ne peuvent être retirés. Par ailleurs, restons également attentifs aux arguments utilisés par notre contradicteur. Tout comme ces mots, il arrivera parfois que nous puissions les enrôler à notre service. C'est ce que l'on appelle un renversement argumentatif. Nous reprenons à notre compte les prémices de l'adversaire, ce qui lui interdit de les contester, mais nous les utilisons pour parvenir à une conclusion radicalement différente. Imaginons que, lors d'une réunion, nous venions de proposer une idée qui nous tient à cœur. L'un de nos collègues s'y oppose ainsi. « Ce n'est pas très original, on a déjà fait ça par le passé. » Sur le champ, nous répliquons Précisément, c'est parce que cette stratégie a déjà maintes fois prouvé son efficacité que nous devrions à nouveau lui faire confiance. Lorsque nous sommes engagés dans un débat, nous ne pouvons pas nous permettre de ne rester concentrés que sur nos arguments. Il va falloir écouter attentivement, dissiper les brumes qui nous environnent afin de retourner contre notre adversaire des armes auquel il ne pourra pas opposer de résistance.